Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive à Cotonou, au Bénin, avec le président de la République, Patrice Talon. Avec moi pour vous interviewer, Monsieur le Président, Christophe Boisbouvier de RFI.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, Monsieur Boisbouvier. C'est vraiment le bonjour.
Monsieur le Président, cette
Oui.
année a été marquée par une grave crise politique et par des violences meurtrières. Les législatives se sont déroulées en l'absence des partis de l'opposition et le 28 avril, trois quarts des Béninois se sont abstenus à ces élections législatives. C'est un record. Est-ce que cela n'a pas été pour vous un désaveu?
Je veux bien vous l'entendre dire ainsi, des aveux par rapport à quoi? Par rapport à la réforme du système politique ou par rapport à mon action globalement, au plan économique, au plan social, au plan sécuritaire, au plan éducationnel? Alors, des aveux, je ne pense pas, je ne fais pas cette lecture. À mon arrivée, j'ai dit haut et fort que la réforme du pays s'imposait sur tous les plans, y compris sur le plan politique. Les lois qui ont été votées pour réformer le code électoral, pour réformer la charte des partis politiques, ont été des lois qui ont été votées par le Parlement sortant. Celui qui était là, les députés qui étaient en place avant mon arrivée, c'est eux qui ont voté les lois en question. Maintenant, la mise en œuvre de ces lois, comme on a pu le constater, il s'est posé quelques problèmes. Tout le monde n'a pas été en mesure de satisfaire les exigences de la loi. Les lois ont été un peu, ont mis la barre, il faut l'avouer, un peu haut, pour contraindre.
Vous le regrettez peut-être un petit peu?
Non, je ne peux le regretter parce que c'était une bonne chose. Mais je trouve que la classe politique et les groupes politiques n'étaient pas suffisamment préparés à satisfaire les exigences qu'eux-mêmes ont fixées. Ça a pu donner donc lieu à des controverses, ce à quoi nous avons assisté. Mais vous savez, quelles sont les réformes constructives, réparatrices, qui n'engendrent pas des heurts et des controverses. C'est pour cela que la pertinence de la réforme a été confirmée par les difficultés que nous avons eues à mettre ça en œuvre sans histoire. Mais c'est derrière nous.
Alors, ce qui n'est quand même pas totalement derrière vous, vous avez parlé des heurts, il y a eu des violences meurtrières, très rares, presque sans précédent dans le pays. Votre ministre de l'Intérieur a admis que les forces de sécurité avaient utilisé des armes létales. Amnesty International affirme qu'il y avait au moins quatre morts, qu'il y a eu au moins quatre morts, pardon. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire officiellement, ce que le gouvernement n'a jamais exprimé, sa position, combien il y a eu de morts lors de ces troubles?
Il y a eu des morts. Il y a eu des
Combien,
morts.
Monsieur le Président?
Je peux vous l'affirmer. Le procureur de la République et le ministère de l'Intérieur ont annoncé que il y a eu environ quatre morts. Ça, c'est. Vous savez, la difficulté, c'est quoi? C'est que il y a des gens qu'on appelle des chasseurs qui ont été mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur du pays par des acteurs politiques et des chasseurs qui ont tiré avec des armes. Sur les agents de sécurité, sur les militaires, sur les policiers et même sur les civils. Et parfois, la riposte de protection du bien public et de protection de soi a amené certains agents de sécurité à faire face aux tirs de ces chasseurs. Alors, les dégâts que ça a pu causer au plan humain, dans un cas ou dans l'autre, parfois pour dissimuler leur action, certains sont partis avec leurs blessés. Parce que quand vous tirez sur les forces de l'ordre et qu'ils ripostent pour ne pas laisser des traces de qui vous êtes, les gens partent parfois avec le blessé. Non, nous avons, en estimant que les dégâts qui ont pu être causés ici et là, je confirme que le nombre de morts pourrait atteindre le chiffre de 4. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ce qui s'est passé relève d'une responsabilité globale de nous tous.
Et vous prenez votre part de responsabilité.
Tout à fait, comme la plupart des Béninois. Je suis le premier responsable aujourd'hui des forces de sécurité, je suis le premier responsable en matière de maintien de l'ordre. Et toutes les fois qu'il y a des dérapages, qu'il y a une foule, un groupuscule de gens qui s'attaquent à leurs semblables, à leurs autres concitoyens, je suis le premier à assumer la responsabilité, dans un cas ou dans l'autre.
Alors, Monsieur le Président, vous aviez dit, après l'échec de ce projet de mandat unique, que pour la prochaine élection, prévue en 2021, vous aviseriez.
Oui.
J'imagine que vous avez dû y réfléchir, cette réforme constitutionnelle est passée. Donc la question évidente pour tout le monde, est-ce que vous allez donc vous représenter en 2021 ?
Être élu éventuellement ou non, être candidat éventuellement ou non, ne conditionne pas mon action au quotidien. Mais peu importe alors que Patrice Talon soit candidat en 2021, ma candidature éventuelle dépend de trois choses. Elle dépend de ma disponibilité personnelle, de mon état d'esprit. Le troisième facteur duquel dépend donc une éventuelle candidature de Patrice Talon, c'est la mise en œuvre de mon action actuelle. Et je suis relativement satisfait de la définition de l'action gouvernementale, même si dans la mise en œuvre, il nous a fallu plus de temps que prévu. Ces trois facteurs, demain, détermineront mon choix. Mais je vous dis, j'aviserai en tenant compte de ces trois facteurs demain, si je dois être candidat ou non.
Alors, le deuxième facteur, c'est l'environnement politique. On remarque que pour 2021, vos deux principaux adversaires de 2016 sont hors-jeu, puisque Lionel Zinsou est inéligible pour 5 ans, et puisque Sébastien Javon a été condamné à 20 ans de prison et est en exil en France. L'un de vos prédécesseurs, Nicéphore Soglo, vous a qualifié de petit dictateur. Qu'est-ce que vous répondez à tous les Béninois qui disent Patrice Talon, en fait, il va être candidat et il va verrouiller la présidentielle de 2021 ?
Ceux qui disent que je vais être candidat, si c'est leur souhait, j'aviserai, je vous dirai si je serai candidat. Mais vous avez dit mes deux principaux adversaires. Qu'est-ce que je n'ai pas compris, le sens de la question ? Lionel Zinsou, Sébastien Javon, qui ont donc été candidats aux présentes élections, pourraient ne pas être candidats aux élections à venir. D'abord, je ne suis pas dans cette dynamique, puisque je ne suis pas candidat, je ne vous ai pas dit que je suis déjà candidat en 2021. Pourquoi voulez-vous que, parce que quelqu'un a un manteau politique, que la personne soit exempte de toute faute, soit un saint et qu'il ne puisse jamais répondre de ses fautes? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a été candidat une fois et que la personne est vue comme un acteur politique et même un opposant politique qu'il ne doit jamais répondre de ses actes? Vous avez cité donc Sébastien Javon, je n'aime pas parler de ce genre de choses, mais je vais vous répondre là-dessus. Est-ce que parce que Sébastien Javon a été candidat et qu'il pourrait être candidat à nouveau, qu'il ne doit jamais répondre de ce qu'il a pu faire ou ce qu'il aura pu faire? Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que la compromission aille jusqu'à ce niveau-là? Vous avez parlé de Lionel Zinsou. Vous avez vu circuler dans la presse de manière authentique les preuves d'une utilisation d'un prêt pour le financement de son élection. Cela a été dit et écrit noir sur blanc de sa main. Vous voulez que quelqu'un qui déclare ou publiquement, qui dit publiquement, je prends combien, 30 millions d'euros, je ne sais pas combien, ou 40 millions d'euros, je ne me rappelle plus, pour financer mes élections, qui le dit publiquement, alors que la loi interdit, limite les dépenses pour les élections présidentielles, quelqu'un qui le dit publiquement, qui n'en répond pas. Parce qu'il est un acteur politique, lui, il est au-dessus de tout le monde. Si vous voulez que l'action politique soit exemplaire et qu'elle entraîne les citoyens à être également exemplaires, chacun dans son domaine, il faut bien que ceux qui dérapent répondent de leur dérapage. Sinon, pourquoi voulez-vous que le policier, le douanier, le fonctionnaire ordinaire répondent de ce que lui, il fait?
Il y a aussi évidemment le cas de l'ex-président Thomas Bonnyahi. Il y a eu des semaines de tension ici même à Cotonou. Vous avez fini par le laisser partir à l'étranger. Oui. Alors des questions très concrètes. Est-ce que vous vous êtes parlé directement et va-t-il rentrer au Bénin?
C'est tout mon souhait que le président Bonnyahi rentre au Bénin. C'est l'ancien président du Bénin. Le président Bonnyahi est désormais une personnalité particulière dans l'espace de vie au Bénin. Et nous avons, au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, et c'est également ma conviction, il est important que l'alternance politique soit une réalité en Afrique, que les présidents en exercice puissent facilement passer la main. Et c'est pour cela que quelqu'un qui a été président de la République et qui peut-être même confondu des choses répréhensibles doit faire l'objet d'un traitement particulier. C'est difficile à dire parce que je viens de vous dire tantôt que chacun doit répondre de ses faits et gestes, mais les nations africaines, les pays africains continuent de se construire. Je ne peux pas vous dire que la nation béninoise, nous avons fini de la construire, elle est une et complète, non. J'ai également dans mon rôle actuel la responsabilité de porter ma pierre à la construction de la nation béninoise. Et pour peu qu'un ancien président fasse l'objet de tracasseries fondées ou pas, une bonne partie de la nation, du peuple, peut mal le percevoir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup regretté l'implication du président Boni Mouyaï dans ce qui s'est passé, parce qu'il a été impliqué dans ce qui s'est passé. Je lui ai fait comprendre, je lui ai dit ouvertement, parce que moi j'ai un langage assez direct, je lui ai fait comprendre. Mais c'est désormais du passé. Mais malgré cela, mon souhait était qu'il rentre, qu'il montre au peuple béninois que même s'il a désapprouvé la manière dont les élections se sont passées par la mise en œuvre des nouvelles lois et que cela a pu amener de la violence contre ses consorts, nous sommes capables de tirer un trait sur cet événement difficile pour nous et que chacun, dans la sagesse, continue de contribuer à un environnement de paix et de développement. Le président Boni Yayi a été 10 ans président de la République du Bénin, donc responsable de notre devenir, de notre destin commun. Même s'il n'est plus dans la charge, la noblesse de la fonction doit continuer d'être pour lui un impératif. Et c'est pour ça que ce serait bien que le président Boni Yayi rende, d'autant qu'aujourd'hui, plus personne ne doit craindre les suites de son action à cause de l'amnistie. Donc il n'a plus rien à craindre, même si il avait des inquiétudes quant à l'interpellation d'un juge sur ce qui a pu se passer. C'est fini.
Le 20 août dernier, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres avec tous ses voisins, et notamment avec vous, oui. Le Bénin. Alors, on connaît les raisons économiques, hein, notamment la lutte contre la contrebande, mais on sait aussi l'investissement de l'ancien président Obasanjo en faveur du président Boni Yayi. Est-ce que ce n'est pas aussi à cause du traitement qui a été initialement infligé au président Boni Yayi que le Nigeria a pris cette mesure ?
Mon Dieu, ce que vous dites est très réducteur pour le grand Nigeria et pour le président Buhari, c'est très réducteur. Je trouve ça assez curieux qu'on dise que parce que le président Boni Yayi a reçu une convocation d'un juge, et que cela a pu être une raison de fermeture des frontières du Bénin. Non. La situation du Bénin, des frontières terrestres entre le Nigeria, le Niger, le Bénin, est une situation difficile. Elle est préoccupante aussi bien pour nous, pour notre population, pour nos acteurs économiques, que même pour les autorités nigérianes. J'ai vu le président Buhari déjà plusieurs fois sur la question. Il est très embarrassé. Les administrations sont en train de travailler pour enfin trouver les mesures techniques qu'il faut pour que cette solution radicale ne soit pas... D'abord, elle ne peut pas durer. Pourquoi ? Parce que nous sommes deux pays frères. Et quels que soient les problèmes techniques que nous reconnaissons tous, nous sommes tenus de trouver une solution pour ne pas mettre un mur entre les deux peuples. Et ce n'est pas la volonté du président nigérien. Pas du tout. Ce n'est pas non plus ma volonté. Et nous travaillons à cela.
Donc vous espérez une solution bientôt ?
Il y aura une solution très bientôt qui va satisfaire les exigences de libre-échange entre deux pays.
Alors, je veux en venir rapidement à une question plus économique. Vous êtes depuis longtemps un défenseur du franc CFA. Le gouvernement se dit prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc.
Quel gouvernement ?
Le gouvernement français.
Ah, il faut le dire.
Le gouvernement français, pardon, oui. Si je ne l'ai pas dit, c'est mon erreur.
Oui.
Par la voix de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui.
Alors, une question concrète. Est-ce que vous seriez favorable à un transfert des réserves monétaires de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest dans un autre pays que la France ? C'est une des mesures qui est réclamée.
Les pays de l'UMOA et la France, puisque la France est notre partenaire en matière monétaire, puisque... comme vous le savez, elle assure la convertibilité illimitée du franc CFA dans le monde, et notamment à travers l'euro, l'Union européenne. Cette réforme qui veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de l'UMOA ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français, cette réforme est souhaitée de tous, y compris par le gouvernement français actuel, y compris par le président Macron. Nous sommes tous d'accord là-dessus, à l'unanimité, pour mettre fin à ce modèle qui, en fait, techniquement, n'était pas un problème. Vous savez, une monnaie a deux faces, hein, a deux valeurs. Il y a la valeur technique et la valeur psychologique. Cet état de choses est devenu un problème pour le CFA, mais un problème psychologique, pas un problème technique. Les réserves de change, qui sont pour une partie logées auprès du Trésor français, pour assurer la garantie de convertibilité, ces réserves de change... Donc si C'était une partie, ce n'est pas toute la réserve de change de la Banque centrale qui était domiciliée en France, auprès du trésor français. Si demain, nous mettons en œuvre, et ça va se faire très, très rapidement, nous mettons en œuvre cette mesure, les réserves de change seront gérées dans les diverses banques centrales, américaines, chinoises, japonaises, canadiennes et autres, et européennes. Donc, la Banque centrale des pays d'Afrique de l'UMOA va gérer la totalité de ses réserves de devises, va les répartir auprès de des diverses banques centrales partenaires dans le monde. Psychologiquement, par rapport à la vision de souveraineté et de gestion de sa monnaie, il n'est pas bien que ce modèle continue. Parce que c'est également quand même la vision du monde par rapport à une monnaie à un pays est un élément important de la valeur de la
monnaie. Et ce changement de domicile des réserves de change de la Banque centrale, c'est pour quand? C'est pour avant le sommet Afrique-France du mois de mai prochain?
Non, je n'ai pas à vous donner la date, mais je peux vous dire que c'est déjà acté, c'est déjà la volonté de tout le monde, ça va se faire. Et d'ailleurs, la France va aussi se retirer des structures de gouvernance de la monnaie. Quoique, moi je vais vous dire une chose, la présence des Français, des Canadiens et d'Américains dans nos structures de gouvernance en tant qu'observateurs pour s'assurer que les pays de l'UMOA ont une gestion de leur monnaie, une gestion efficace, transparente, et digne de confiance, est quelque chose qui ne me gêne pas. Vous savez, la monnaie, c'est quelque chose qui a besoin d'avoir la crédibilité, l'assurance de tout le monde quant à sa gestion.
Une dernière question très courte. Normalement, c'est l'année prochaine que le CFA doit être remplacé par l'ECO dans les 15 pays de la CEDEAO. Mais vous, qui êtes un homme pragmatique, vous croyez vraiment que ce sera l'année prochaine? Est-ce vraiment réaliste?
C'est un agenda politico-économique. Mais les réalités de l'économie, parfois, sont en déphasage avec la volonté politique. Ce n'est pas évident que, techniquement, nous soyons prêts à rentrer dans une monnaie commune l'année prochaine. Moi, j'ai le tort, le défaut de dire les choses de manière trop directe. Les critères de convergence, l'harmonisation de tout ce que, techniquement, concourt à l'entrée à la fois de tous ces pays dans la même monnaie, pose encore quelques problèmes de calendrier. Même si nous n'y parvenons pas véritablement l'année prochaine, la volonté demeure. Et nous souhaitons qu'un jour, les pays de la CEDEAO puissent se retrouver tous au sein d'une même monnaie. Ça viendra, même si techniquement, nous n'y parvenons pas encore l'année prochaine.
Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus à Cotonou. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur les antennes de RFI et de France 24.
Merci à vous.